Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, Mossy Mélanie Chalandon, Margot Leridon et Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Premier temps d'une semaine consacrée aux batailles de l'eau, nouvelle bataille de l'eau. Nous nous intéresserons cette semaine aux différents maritimes, notamment du côté de la Méditerranée. Mercredi, il sera question des conflits sur les fleuves autour des barrages. Jeudi, nous parlerons du manque d'eau et du défi que ça représente dans le domaine agricole. Mais pour commencer, place à la gestion et la distribution d'eau. Veolia, Suez, OPA sur le marché de l'eau. Point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Notre projet, il est inclusif. Il est amical. Nous souhaitons convaincre tous les salariés de Suez de nous accompagner dans ce projet. Et je réitère publiquement mon invitation pour construire ensemble ce projet et une place pour tout le monde dans ce projet, pour tous les salariés, tous les managers, tout le top management de Suez.
Que ce soit M. Castex ou M. le maire, ils ont l'air d'être assez sereins avec cette opération. Franchement, on est plus qu'inquiets, on ne comprend pas comment la fusion, l'absorption de deux groupes de la taille de Veolia et Suez pourrait se passer sans casse sociale.
Les entreprises défendent l'intérêt privé, nous défendons l'intérêt général. Et l'intérêt général des Français, des salariés, l'intérêt général de l'industrie, c'est que deux champions de cette taille-là, de cette réputation-là, qui ont cette histoire en France, Suez et Veolia, s'entendent et trouvent un accord amiable.
Depuis cet été, la France suit le rebondissement des tractations entre les deux géants de l'eau, Veolia et Suez. En effet, le numéro 1 Veolia cherche à s'accaparer le numéro 2 du Suez en rachetant les actions d'une autre entreprise, Engie en l'occurrence. Si l'opération est conduite à son terme, on aurait alors une nouvelle entité qui, en France, serait dans une situation de quasi-monopole. Et celle-ci n'est pas sans inquiéter les syndicats ainsi que les élus locaux pour qui la concurrence constitue la meilleure garantie pour le contrôle des prix et pour la qualité du service de l'eau. L'État aurait voulu empêcher cette OPA, mais les réserves du ministre de l'Économie qu'on entendait à l'instant n'ont pas suffi. Alors, quelles conséquences pour les consommateurs? Faut-il s'attendre à ce que cette fusion marque une nouvelle étape dans le processus de privatisation du marché de l'eau ou au contraire, va-t-on vers une montée en puissance du modèle dit en régie par lequel les municipalités gèrent directement l'eau? Et qu'en est-il ailleurs? Comment les autres pays gèrent-ils le traitement des eaux usées et la distribution jusqu'aux consommateurs? Quels sont les modèles existants ici en Europe? Voilà toutes les questions ô combien importantes et ô combien difficiles qu'on va essayer d'aborder ce matin avec d'abord Bernard Baraquet qui est avec nous ici en plateau. Bonjour Bernard Baraquet.
Bonjour.
Alors les auditeurs vous connaissent et depuis longtemps parce que on en parlait juste avant, vous étiez le premier invité de Culture Monde, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 10 ans. Vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS et un spécialiste de l'eau, donc on va accueillir dans quelques instants aussi Christelle Peson qui est avec nous depuis Turin. Alors pour l'instant la liaison est un peu compliquée, il va falloir qu'on la rappelle, mais en tout cas on va la retrouver, elle est maîtresse de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers. Le temps que la liaison se refasse, Bernard Baraquet, peut-être un petit mot sur l'affaire Veolia-Suez, c'est comme ça maintenant qu'il faut la dénommer. Bruno Le Maire, qu'on entendait à l'instant, s'était officiellement opposé à ce rachat de Suez par Veolia, et pourtant, il est en route, il n'est pas acté, mais il est en route. Que vous inspire le fait que, précisément, la préconisation d'un membre de l'exécutif n'est pas permis de mettre un terme à ce projet?
Moi, j'ai beaucoup de mal à vous dire qu'est-ce qu'il faut en penser, parce que tout peut arriver. Je pense qu'il faut, comment dire, faire un zoom arrière quand même. Cette affaire se passe dans un contexte où il y a indéniablement une tendance de la part des nouvelles collectivités locales, les EPCI, qui sont regroupées maintenant, consolidées, à reprendre la main sur leur service d'eau, sinon complètement en régie, au moins en rétablissant un nouveau rapport de force avec les entreprises délégataires.
Donc ce que vous dites en creux, c'est qu'en fait le marché se restreint et que donc c'est de plus en plus difficile pour ces acteurs-là. Et peut-être que c'est ça qui expliquerait l'OPA.
Oui, il se restreint un peu, en tout cas dans quelques grandes villes, et notamment on va voir dans les villes qui ont choisi de prendre des listes où les écologistes sont présents, comme à Bordeaux, il risque fort d'y avoir une remunicipalisation qui avait d'ailleurs été envisagée il y a un certain temps. Mais Même si,
mais et donc ça explique le calendrier,
c'est-à-dire. Ça peut expliquer en partie, mais en réalité, sur la masse des contrats qu'ils ont, c'est pas tout. Et puis par ailleurs, ben, ces entreprises, toutes les deux, elles ont beaucoup de leur chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger.
On va y revenir, on va y revenir.
Voilà. Donc, faut être assez prudent. Je pense quand même que, il y a un contexte, et c'est ça qui m'intéresse, qui est que les nouvelles collectivités regroupées sont, contrairement à, d'ailleurs à ce que certains dans le côté de la gestion publique craignent, le fait qu'elles soient regroupées leur donne un meilleur rapport de force, une meilleure capacité de signer des bons contrats avec ces entreprises délégataires. On peut parler par exemple du cas de Paris. Quand le maire Chirac, à l'époque, a fait un contrat avec la SAGEP et puis l'introduction de Suez et de Veolia, déjà à l'époque, uniquement pour la distribution d'eau, hein, c'est sûr que le contrat était assez peu transparent, assez opaque. Ça lui a été très justement reproché.
Mais choses ont changé depuis. On va revenir sur cet aspect historique des choses, Bernard Baraquet. On va commencer par l'actualité parce qu'elle nous intéresse beaucoup et on veut comprendre évidemment les choses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout cela n'est pas fait. Cette OPA, elle est en chemin, mais il y a des voies de suspension. Il y a par ailleurs une Commission européenne qui pourrait bien se prononcer contre. Suivez mon regard, on se souvient de ce qui s'était passé entre Alstom et Siemens. Bref, c'est pas fait.
Non, c'est pas fait. C'est pas fait, mais bon. Et d'ailleurs, le blocage pour l'instant, il faut bien le dire, je l'ai vu dans Le Monde comme vous, hein, c'est les syndicats de Suez et de Veolia, d'ailleurs les syndicats des personnels qui sont montés au créneau pour dire, attendez, ça peut pas se faire sans qu'on soit vraiment au courant de ce qui va nous arriver.
Ça, de toute façon, c'est la première ligne. Mais il y en aura d'autres des lignes.
Il y en aura.
Donc c'est pas fait.
Et en tout cas, on peut dire un mot quand même sur le fait que Veolia ne pourrait pas garder la partie française de l'ex-Lyonnaise des eaux, hein, genre la partie française de l'eau à Suez, et il la repasserait à un fonds de pension. Voilà.
Meridiam en l'occurrence, un fonds d'investissement.
Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'en Angleterre, les fonds de pension tiennent les entreprises d'eau parce que les banques n'en ont pas voulu. Parce que c'est des investissements où on peut gagner de l'argent, pas beaucoup et à long terme.
On va regarder ailleurs comment ça se passe, mais on va commencer par regarder là tout de suite, là comment ça se passe chez nous. Christelle Peson, vous êtes avec nous depuis Turin, ça y est, la connexion est refaite. Vous êtes maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers et chercheuse au LIRSA, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Je demandais à Bernard Baraquet son regard sur cette affaire Veolia-Suez, en tout cas sur cette tentative de mariage, parce que pour l'instant on n'en est que là, on disait qu'il y avait beaucoup d'obstacles évidemment à franchir. Il y a un moment où la question va se poser quant à l'effet de ce rapprochement possible pour le consommateur. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que tout cela risque d'augmenter considérablement le prix de l'eau pour le consommateur. Votre regard en général et en particulier sur ce point pour le consommateur, est-ce que l'histoire montre que traditionnellement dans ce genre d'opération on a une augmentation des prix, Christelle Peson?
Alors écoutez, les derniers mouvements de rapprochement de sociétés de cette taille, enfin de cette taille en l'occurrence il n'y en a jamais eu, mais les mouvements de concentration sur le marché de l'eau se sont plutôt déroulés dans l'entre-deux-guerres. Le marché est relativement stable depuis l'après-guerre. Et la théorie économique nous indique plutôt qu'effectivement, quand le nombre de concurrents se réduit, c'est mauvais pour le consommateur. Donc le rapprochement, même s'il n'est pas, comme vous le disiez, achevé entre Suez et Veolia, est a priori une mauvaise nouvelle pour le consommateur d'eau, puisque les communes, au moment de leur choix de gestion, si elles choisissent la délégation, auront un nombre de concurrents moindre. Maintenant, je pense que le sujet de ce rapprochement est quand même celui de la contraction du marché de la gestion déléguée en France. La gestion publique a doublé ses parts de marché depuis 2000, depuis la loi Chevènement. Et aujourd'hui, les opérateurs d'eau, Suez, Veolia et la CISE, ont en face d'elles un marché qui se réduit. Et ils réagissent en se rapprochant, en l'occurrence, donc le rapprochement entre Suez et Veolia, parce que le nombre de contrats est moindre qu'avant, parce que leur rentabilité décroît. Les opérateurs consentent des baisses de prix depuis 15 ans, pour tenter de conserver leurs contrats les plus importants, les contrats en urbain. Donc le rapprochement Suez-Veolia est pour moi une stratégie de survie des opérateurs privés sur le marché français, qui à terme peut effectivement être une mauvaise nouvelle pour le consommateur. Maintenant, la concurrence entre pour la gestion des services d'eau s'opère plus entre la gestion publique et la gestion privée qu'entre les opérateurs, même ouais. si, effectivement, depuis quelques années, ils ont tendance à se faire beaucoup plus qu'avant concurrence et à reprendre des contrats qui étaient précédemment détenus par l'autre.
Christelle Peson, vous évoquez le marché national et on comprend l'enjeu effectivement pour ces acteurs-là dans un marché qui est en train de se contracter légèrement, justement à devenir plus puissant et être dans une situation de quasi-monopole pour effectivement s'assurer le reste du marché. Ça, c'est pour le plan national. Si on regarde un tout petit peu à l'extérieur, parce que l'un des arguments avancés par Antoine Frérot ces dernières semaines, c'est l'idée que on aurait là l'émergence d'un acteur qui, sur le plan mondial, serait en capacité d'aller faire concurrence aux autres protagonistes. Et notamment, il y a évidemment les acteurs chinois qu'Antoine Frérot a directement évoqué en expliquant que demain, peut-être, ces acteurs-là se retrouveraient sur le marché de l'eau européen, peut-être même sur le marché français. Qu'en est-il réellement? Est-ce que l'idée selon laquelle Veolia-Suez, j'ai bien compris ce que nous disait tout à l'heure Bernard Barraquet, c'est-à-dire qu'il y a une partie effectivement qui va être transférée sur un fonds, etc. Mais disons, est-ce que cet acteur-là pourrait effectivement jouer demain à l'international pour aller gagner des marchés? Et quel est le risque en retour de voir des acteurs étrangers, notamment chinois, sur le marché européen? On va commencer par vous, Christelle Peson.
Alors écoutez, en rachetant Suez, Veolia élimine un concurrent, qui en l'occurrence n'est pas chinois, qui est français. Il se trouve que sur la plupart des marchés, des appels d'offres internationaux auxquels Veolia répond, Suez répond aussi. Donc si on veut grandir,
voilà.
Les opérateurs français gagnent un appel d'offres demain, sont réduits par deux quelque part.
Bon, voilà, alors ça c'est une coupure, on va essayer de refaire cette liaison, on va vous récupérer par téléphone Christelle Peson, Bernard Barraquet, heureusement qu'on vous a vous ici à Paris, hein, ça fait deux fois que vous êtes le sauveur de l'émission. Non, ça sert à rien. Non mais enfin quand même, c'est une vraie question que celle de l'argument avancé par Antoine Frérot. Veolia et Suez va devenir l'acteur européen capable d'aller gagner des parts de marché à l'étranger.
C'est possible, mais je suis pas entièrement
convaincu.
Non, je suis pas entièrement convaincu parce qu'en fait, la plupart du temps, ce que ces entreprises essayent de vendre, c'est vraiment un savoir-faire dans les services publics d'eau et d'assainissement. Je veux dire, et c'est pas forcément en investissant énormément de capital. D'ailleurs, une partie des problèmes qu'ils ont eu dans les années 90-2000, lorsqu'il y a eu des privatisations, c'est que les pays dans lesquels ils ont investi, comme l'Argentine par exemple, espéraient qu'ils allaient beaucoup investir de capitaux. Et quand ils l'ont fait, après, ils s'en sont mordus les doigts. Enfin, je veux dire, Suez et Veolia d'ailleurs, les deux, ils s'en sont mordus les doigts parce que les gouvernements locaux de ces pays ont dit « Ah, vous arrêtez de payer vos factures, ces types vous volent, ils ne font pas assez d'investissements. » Et voilà, il y a eu des tas de difficultés. Donc en fait, leur problème, c'est d'essayer de pas trop investir, mais en même temps de faire prendre l'habitude dans les pays où ils interviennent du service public à l'occidental, c'est-à-dire on reçoit l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on paye une facture avec un compteur. Hein, voilà. Et ça, il y a beaucoup de pays en développement où c'est pas encore habitué, c'est pas fait. Et du coup, si vous voulez, le savoir-faire de faire payer les gens sans douleur, c'était leur force. Ça a été la force en particulier des entreprises françaises. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est est-ce que ils vont pas être doublés, par exemple, par des Chinois qui, vous le voyez déjà, investissent énormément, sont capables d'investir des capitaux énormes dans des infrastructures dans les pays en développement, ce que nous ne faisons plus, ou pas, ou moins.
Alors même que ce sont justement des infrastructures qui souvent oui. ont besoin de.
Donc il faut voir quand même comment la concurrence va se déplacer éventuellement et pas seulement uniquement sur la fourniture de services.
Donc ça veut dire que au fond vous le sujet c'est moins de savoir si ce nouvel acteur sera en capacité de se projeter à l'international parce que d'une certaine manière l'un et l'autre le font déjà aujourd'hui, mais la question est plus de savoir jusqu'où notre marché pourrait être pénétré par d'autres protagonistes, et en particulier les acteurs chinois. Donc en réalité, vous êtes un peu sur la ligne avancée par Antoine Frérot, qui depuis des semaines nous explique qu'à terme, des acteurs chinois vont arriver. Beijing Capital, Beijing Entreprise Water Group, China Everbright, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais lui dit demain, ils seront là.
Oui, mais d'un autre côté, je vais vous dire, il y a quelques années, quand la loi a commencé à ouvrir la concurrence, lorsqu'il y avait délégation à des entreprises européennes, eh ben, il y a eu des tentatives d'Européens pour venir prendre des parts en France, par exemple des Allemands dans la partie privée de la distribution d'eau à Nantes, hein, Gelsenwasser, et il y a eu des Italiens de l'Acea, l'Acea de Rome a voulu candidater pour prendre le contrôle de services d'eau de Nice, de la région de Nice, contre Veolia, et ils n'ont pas gagné. Alors, est-ce que c'est parce que l'appel d'offres a été fait de façon à ce qu'ils ne puissent pas gagner ou... Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout assez dans les chiffres. Mais pénétrer le marché français, c'est très difficile. Et je veux dire, je suis d'accord avec Christelle.
Mais Pézon. C'est possible.
Bien sûr, c'est possible.
La loi le permet.
Et c'est déjà arrivé. Mais d'une façon.
C'est déjà arrivé, quel acte, hein?
Je vous dis, il y a Gelsenwasser qui avait une petite partie de la distribution d'eau de Nantes, mais ils se sont retirés. Parce que c'est pas forcément très intéressant. Et donc, en définitive, là où Christelle a raison, c'est que le principal concurrent des entreprises de distribution d'eau, ou de l'entreprise si elle est en situation de monopole, en plus, faut quand même pas exagérer, hein. On nous dit Veolia va manger Suez, mais il reste la SOR. La SOR qui est présente...
C'est beaucoup plus petite.
Oui, et elle est surtout présente en plus dans des petites collectivités rurales, etc. Mais la SOR, elle existe, je veux dire, elle a eu des problèmes financiers, mais elle existe toujours.
Bernard Baraquet, on va faire en permanence des allers-retours entre la France, l'étranger, on va faire des jeux de comparaison. Si on regarde sur le territoire français, donc c'est aujourd'hui les collectivités locales, c'est comme ça les collectivités territoriales qui ont la main sur la question des compétences sur le traitement et la distribution d'eau. Donc en pratique, elles ont le choix, faut être un peu pédagogique hein, pour les auditeurs, elles ont le choix soit d'exercer leur rôle directement, donc on appelle ça en régie, soit elles peuvent faire appel à un prestataire privé, donc on les a évoqués, c'est Veolia, c'est Suez, et puis le dernier c'est la SOR. Et donc là on est dans le modèle délégataire. Aujourd'hui en France, vous pouvez nous faire le paysage, comment ça se partage, qui choisit quelle option, en gros hein. Oui, on a une idée.
Il faut que je dise tout de suite une chose, il vous manque une case.
Alors?
Parce que depuis...
Vous voulez dire de manière générale
Non, depuis manière tout à fait générale. Depuis 2010, enfin, les collectivités locales françaises ont l'autorisation, par la loi, de créer une entreprise privée qui leur appartient à 100% pour distribuer l'eau. Et du coup, on est beaucoup plus proche avec ce modèle du modèle qui s'est développé aux Pays-Bas, en Allemagne, dans plein de pays où vous avez des entreprises privées appartenant aux collectivités locales depuis des fois un siècle.
Mais c'est pas le modèle de la régie, c'est quelque chose d'un peu hybride.
C'est tout à fait différent. C'est une entreprise privée. La régie, le problème de la régie, qu'elle soit directe ou autonome, elle a des avantages. Si la collectivité est capable de soutenir sa régie, de l'aider à investir quand il faut, etc., ça peut marcher très bien. J'ai fait d'ailleurs moi-même une évaluation de la régie des eaux d'Amiens, il y a déjà de nombreuses années, qui a été reprise par l'OCDE d'une manière un peu alambiquée d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas admettre que la gestion publique pouvait être très bien. Eh bien, donc ça existe, mais un des problèmes, c'est que quand vous êtes en régie, vous subissez quand même beaucoup la pression du contrôleur financier qui représente l'État et qui vous bride. Et historiquement, c'est toujours à ça que je veux venir. Ce qui s'est passé en France, c'est que c'est le rapport de force entre les collectivités locales et l'État qui contraignait ces collectivités, qui a orienté beaucoup de collectivités à s'associer avec des entreprises privées pour s'en sortir sur le plan financier parce qu'elles ne pouvaient pas le faire en régie. Mmh. Et ça a décrédibilisé le modèle de la régie, alors même qu'il aurait pu bien fonctionner. Il pouvait très bien fonctionner. Quand on y revient aujourd'hui, vous prenez le cas exemplaire pour moi, c'est Grenoble. Bon, il y a eu une affaire de corruption. Grenoble est reparti en régie et quelques années après, la ville de Grenoble s'est associée avec le syndicat de la banlieue pour créer une société publique locale, c'est nouveau nom de ces formes de délégation avec entreprise privée, et ils sont très contents comme ça.
Redites-nous le nom de ce modèle-là.
Ça s'appelle la société publique locale.
La société publique locale. Voilà. On a retrouvé Christelle Pezon. Christelle Pezon, il y a aussi quelque chose qu'on a observé ces dernières années, c'est une montée en puissance de la municipalisation de l'eau, c'est-à-dire un retour vers ce modèle en régie. Il y a plusieurs villes qui ont récupéré directement la gestion de l'eau. Alors on a parler évidemment beaucoup de Paris, mais on pourrait parler de Nice, on pourrait parler de Montreuil. Enfin, il y a de Grenoble évidemment, comme vient d'évoquer Bernard Baraquet. Les moteurs de ces passages en régie publique, de votre point de vue, quels sont-ils et quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, Christelle Pezon?
Merci. Alors effectivement, depuis une vingtaine d'années, Paris a commencé, le Grenoble un peu avant, mais dans un contexte très particulier lié à l'annulation du contrat pour les faits de corruption. Donc la première vraie, j'ai envie de dire, vraie reprise en régie est parisienne. Mais Paris même est un cas particulier, puisque c'est la commune de Paris qui a repris son service en régie. Alors que ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, donc depuis le cas parisien, c'est une reprise en régie dans un contexte très particulier de transformation du niveau administratif local. Vous précisiez tout à l'heure, à juste titre, que les communes ont la responsabilité de leur service d'eau, de la gestion et de l'organisation de leur service d'eau. Ça, c'était vrai jusqu'en 2015. Depuis 2015, depuis la loi NOTRe, la loi de nouvelle organisation du territoire de la République, la compétence en eau potable a été transférée aux communautés. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, c'est très important puisque la France compte un nombre très élevé, pour ne pas dire extravagant, de communes. Hein, on a plus de 36 600 communes en France qui étaient toutes compétentes en eau potable. Et depuis 2015, ce ne sont plus elles qui sont compétentes, mais 2000 communautés qu'on connaît, hein, donc les communautés rurales, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, qui fait que le législateur a quelque part décidé de diviser grandement le nombre de collectivités responsables en passant de 36 600 à 2000.
Ce qui est quand même, je fais une toute petite parenthèse, Christelle Pezon, ce qui est quand même assez cocasse quand on sait que c'est précisément cette loi NOTRe, elle a été prise dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation mise en œuvre par François Hollande. Donc en réalité, on a concentré les choses, on a diminué le nombre de protagonistes, alors même que, a priori, hein, la décentralisation devrait permettre d'ouvrir davantage les choses et de décentraliser, comme les choses l'indiquent. Enfin, je ferme la parenthèse. Christelle Pezon.
Oui, vous avez raison, mais à première vue seulement. Parce que si vous voulez, quand vous avez 36 600 mètres d'ouvrage, de fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 36 600 collectivités qui n'ont pas les moyens d'exercer leurs responsabilités. L'énorme avantage compétitif qu'ont eu les opérateurs privés par rapport à la gestion en régie, hein, quelles que soient les formes de régie, a été pendant 150 ans leur taille. Hein, quand vous avez 36 600 communes qui doivent organiser à leur échelle ou en s'associant entre elles des services d'eau, eh bien vous en avez plus de la moitié qui décident de passer en gestion déléguée parce qu'elles n'ont pas la taille ni les compétences pour exercer leurs compétences. En revanche, quand vous passez de 36 600 mètres d'ouvrage à 2000, vous créez au niveau local des centres, des administrations qui, sur le plan politique et sur le plan technique, ont tout à fait la capacité de prendre en régie la gestion de la service d'eau. Et c'est exactement ce qui se passe depuis la loi NOTRe. Ça avait commencé avant, évidemment, que les métropoles datent de 2010. Et les communautés urbaines avaient été un peu aménagées, mais le mouvement de reprise en régie auquel on assiste depuis une vingtaine d'années en France est directement lié à la réforme du niveau local et à la constitution d'entités locales qui ont les chaînes, qui ont la surface financière et qui ont les compétences techniques à même de crédibiliser la gestion publique par rapport à la gestion déléguée.
Donc je dois ravaler mon commentaire et bien admettre qu'en réalité, on a produit quand même de la marge de manœuvre sur le plan local. Bernard Baraquet.
Oui, en fait, ce que dit Christelle, c'est un peu rapide parce qu'en fait, avant même tout ça, il y a eu la mise en place de syndicats intercommunaux. D'ailleurs, Christelle a très bien expliqué dans ses travaux historiques comment ça s'était fait. On voit bien d'ailleurs les syndicats intercommunaux apparaître dans l'entre-deux-guerres. Alors, il y en avait deux sortes. Il y avait des toutes petites communes qui se mettaient à trois ou quatre pour arriver à capter une source et se la distribuer, souvent en régie d'ailleurs, ils restaient en régie. Et puis, il y avait trois syndicats intercommunaux de ville. La banlieue de Paris, qui est devenue le CEDIF, Lyon, et la plaine de Gennevilliers, qui était aussi dans la banlieue de Paris. Alors les deux premiers, banlieue de Paris et Lyon, c'était la Générale des Eaux, et puis la Sainte-Plaine de Gennevilliers, c'était la Lyonnaise. Mais on peut dire en gros, avant toutes ces lois NOTRe, etc., en gros, il restait 12 000 communes qui étaient en régie directe. Il y en avait 24 000 autres qui étaient dans des syndicats intercommunaux de taille très différente, d'ailleurs, mais très souvent des formules où la compétence intermunicipale des techniciens compensait l'émiettement politique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous me tendez la perche, vous faites cette belle perspective historique, je vous propose une belle archive. 1963, on est à Paris justement.
Voici le réservoir de Montsouris où convergent les eaux venues de la région de Fontainebleau et de Montereau dont nous venons de voir le captage. Sous ces voûtes, on peut stocker 200 000 mètres cubes d'eau. Au total, tous les réservoirs parisiens ne peuvent contenir que les trois quarts de l'eau consommée en une seule journée. Paris n'a donc jamais un seul jour de stock. Ici, comme au départ, une attentive surveillance contrôle la qualité de l'eau. Par surcroît de précaution, des truites nagent dans des aquariums alimentés en eau venant des diverses sources. Ces poissons sont extrêmement sensibles à toutes les pollutions. Dès que l'un d'eux paraît mal à son aise, l'alerte est immédiatement donnée.
Voilà, archive de 1963 de l'INA dans ce réservoir d'eau de Montsouris où l'attention toute particulière est apportée à la qualité de l'eau via notamment à ces, grâce notamment à ces truites et on les remercie. Christelle Peson, peut-être cette archive, elle nous sert aussi à regarder l'histoire sur le temps un peu plus long et vous avez, vous, regardé les choses sur le temps un peu plus long. Vous dites que la gestion des grands services urbains et notamment de l'eau ont connu trois grands points de bascule importants. D'abord au début du XXe siècle, lorsque les villes qui avaient opté pour la concession basculent vers la gestion en régie. On a les années 80-90, en gros, quand les vieilles régies urbaines disparaissent au profit d'une mise en délégation. Et puis les années 90, avec cette reprise en gestion publique du service de l'eau. Qu'est-ce qui a présidé ces choix, Christelle Peson? Est-ce que ce sont très essentiellement des arguments économiques, des arguments politiques? Qu'est-ce qu'il y a derrière, Christelle Peson?
Alors écoutez, quand il s'agit de l'eau, les causes sont rarement uniques. Donc effectivement, c'est une combinaison de causes à la fois économiques et politiques qui explique ces points de bascule. Au début du XXe siècle, les grandes villes qui avaient dans un premier temps concédé la création finalement de leur service d'eau, ont mis un terme soit de manière radicale en rachetant leur contrat de concession, soit en faisant évoluer ces contrats de concession vers des contrats d'affermage, au motif que leurs ambitions avaient évolué. Il ne s'agissait plus d'alimenter en eau quelques fontaines publiques et quelques bouches d'incendie et de laisser aux concessionnaires toute liberté pour développer le service privé, donc le service d'alimentation en eau à domicile. Mais leur ambition était finalement d'étendre la conception même du service public à l'alimentation en eau à domicile. Et ce qui leur était rendu très difficile dans le cadre des contrats qu'elles avaient signés dans les années 1850 à 80, puisqu'il fallait pour cela qu'elles laissent les concessionnaires bénéficiaires à même hauteur que dans les contrats qui étaient prévus. Donc concrètement, il fallait que, pour que la distribution d'eau à domicile soit étendue par les concessionnaires, que ce soit dans les mêmes conditions financières. Mmh. Et elles estimaient que ces conditions financières faisaient obstacle, justement, à la généralisation de la distribution d'eau à domicile. Donc ça, c'était le premier problème. Le second étant celui de la qualité de l'eau, puisque la qualité était précisément définie dans les contrats et que le Conseil d'État faisait obstacle à l'évolution de la notion même de qualité, alors qu'en... l'analyse de la qualité de l'eau, Pasteur, etc., était passée par là entre-temps et qu'on était capable à ce moment-là de dire que la qualité de l'eau qui avait été définie en 1860 n'était évidemment plus à la hauteur de ce qu'on était capable de faire 60 ans plus tard. Donc ça, c'était
oui, on avait arrêté de confier la question de la qualité de l'eau aux truites, même si on les en remercie une fois encore. Oui. Juste un point, Christelle Peson, et puis ensuite je voudrais donner la parole à Bernard Baraquet qui veut réagir, mais est-ce que ces allers-retours... Évidemment, je sais bien que les modèles en Europe sont différents. Il y a d'autres modèles, on va s'y intéresser dans quelques minutes. Mais est-ce que ces allers-retours que vous décrivez sur le plan historique, on les retrouve dans d'autres pays? Et à peu près au même moment?
Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Mmh. Le mouvement politique qui est connu sous le nom de socialisme municipal et qui est loin d'être franco-français, on le retrouve dans tous les pays européens et aussi en Amérique du Nord. Et donc ce reflux, en fait, vers la gestion publique, c'est un mouvement général au début du XXe siècle. Ce qui est tout à fait particulier en France, c'est le fait que les opérateurs privés n'aient pas disparu grâce à ce contrat très particulier qu'est l'affermage, qui permet en fait de combiner l'investissement public à l'exploitation privée. Et c'est grâce, je veux dire, à l'invention de ce contrat par le droit administratif français que les opérateurs ont pu se maintenir, et encore une fois grâce à la très très grande fragmentation communale qui existe en France.
Bernard Baraquet.
Alors, deux choses. La première, c'est que quand elle parle de Pasteur et tout ça, il y a le problème, on invente le traitement de l'eau. C'est-à-dire que les médecins qui voient les maladies hydriques passent la balle, en quelque sorte, aux ingénieurs qui inventent ce qu'on appelle le génie sanitaire, c'est-à-dire le traitement de l'eau potable et plus tard le traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu. Hein. Et ça, c'est aussi ça qui a fait la fortune des entreprises françaises, puisque elles ont réussi à prendre le contrôle des entreprises qui fabriquaient ces usines, de Grémont, OTV, etc. Donc, ça a été lent, mais ça a été fait. Et donc, ça a renforcé le modèle de la délégation. Hein. Et en même temps, comme le dit justement Christelle, bah, la concession, elle était trop rigide pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que, peut-être deux choses. Avant le traitement de l'eau, on avait envie de trouver la solution en allant chercher de l'eau toujours plus loin. Et je vous rappelle quand même qu'en 1890, deux ingénieurs savoyards s'étaient pointés au Conseil de Paris en disant « Moi j'ai la solution, nous avons la solution, on va aller chercher de l'eau dans le lac Léman, on va faire un tuyau de 400 km pour amener l'eau à Paris, et comme ça on n'aura plus jamais de problème. »
La bonne idée.
Voilà. Et pourquoi? Alors la question, ça s'est jamais fait. Et ça s'est jamais fait parce que alors premièrement, il y a eu la première guerre mondiale qui fait qu'après les conseils de Paris s'est dit ah la prochaine guerre les Allemands vont foncer sur le tuyau, ils vont couper l'eau, on sera obligé de capituler. Alors c'est un peu une anecdote, mais c'est pas complètement faux parce que c'est l'argument qui a été utilisé par le conseil de Paris. Mais le véritable argument, c'est que on fait pas un tuyau de 400 km pour amener de l'eau alors qu'on en a plein dans la Seine et dans la Marne si on la traite. Et dès la fin du 19e siècle, la Générale des Eaux avait commencé la chloration comme technique de traitement de l'eau. Et dans ces années-là, les quatre techniques de traitement, qui sont donc la chloration, l'ozonation, les ultraviolets et le charbon actif, ont été mises en place avant la Première Guerre mondiale. Donc après, si vous voulez, on a pu basculer et prendre l'eau dans la rivière en amont de la ville, ce qu'on a fait pour toute la banlieue de Paris et pour la moitié de l'eau qui est consommée à Paris. Vous comprenez?
Je comprends. Bernard Baraquet, et puis ensuite, je vous redonne la parole, Christelle Peson. On ne va pas faire tous les pays de l'Union européenne, mais enfin, il y a quand même peut-être quelques grands modèles saillants qui pourraient être intéressants de mettre en avant. Si on traverse la Manche, du côté des Anglais, il y a forcément des choses à regarder. On se dit que ce sont des grands libéraux et que donc, forcément, leur modèle de traitement, de gestion, de distribution de l'eau doit être un modèle qui s'appuie assez largement sur le privé, voire qu'il est totalement... est-ce que c'est tant le cas que cela et est-ce que ça fonctionne?
Alors, l'Angleterre, il faut déjà rappeler une chose. En Angleterre, il pleut souvent, mais pas beaucoup. Donc le problème de la pénurie d'eau potentielle dans les grandes villes, notamment dans le sud-est de l'Angleterre, est un problème réel. D'accord? Par rapport à ça, c'est ça que je voulais vous dire. Vous ne pouvez pas réfléchir cette question du débat public-privé tel qu'il s'est passé dans plein de pays d'Europe, sans l'associer à au moins deux autres débats. Le premier de ces deux débats, c'est le débat entre centralisation et décentralisation. On vient d'en parler pour la France, puis finalement, on trouve des entités de gestion supralocales, mais près du local, qui paraissent plus durables. D'accord ? L'Angleterre, c'est exactement ça. En Angleterre, en 1974, on a décidé de fusionner les 160 et quelques entités de distribution d'eau qui restaient en 10 entités régionales de rivières qui étaient chargées à la fois de distribuer l'eau, de s'occuper de la police de l'eau, de la ressource, et de la planification de l'eau. Ça a été le modèle d'ailleurs qui a été très très suivi dans le monde entier parce que c'était un peu une alternative, mais pas très différente, du modèle soviétique, des pays de l'Est. N'est-ce pas? Où tout était public. C'était une gestion publique à l'anglaise. Et comme, si vous voulez, quand on a commencé à avoir l'austérité en Angleterre et qu'on a empêché ces entreprises de l'eau d'emprunter, de gagner de l'argent, etc., c'est elles qui ont demandé leur privatisation. Et du coup, après quelques années d'hésitation, on a séparé la politique de l'eau anglaise entre la privatisation des services, toujours dans ces 10 entreprises, plus une trentaine de petites entreprises qui avaient survécu à la nationalisation avant. Et puis là, tout ce qui est gestion de la ressource, gestion du milieu aquatique, police de l'eau, qui a été concentré. Donc je veux dire, moi j'interprète la situation anglaise comme à la fois une privatisation des services, mais en même temps une centralisation accrue de la politique de l'eau.
Donc c'est plus compliqué, plus à nuancer qu'on pourrait le penser. Christelle Peson, sur ce modèle britannique, parce que c'est vrai, quand on regarde les choses, quand on regarde par exemple la question du rail aussi, ce qu'on a beaucoup critiqué du côté de la Grande-Bretagne, c'est qu'on a dit, bon voilà, en gros c'est très simple, ils ont compris, les Anglais, quand ça rapporte de l'argent, c'est pour le privé, quand ça en coûte, c'est pour le public. Donc là aussi, on a des allers-retours, de temps en temps, c'est les puissances... la puissance publique qui prend le relais parce que faut faire des investissements, que ça coûte très cher. Et donc, c'est elle qui paye. Et donc, c'est évidemment les citoyens. Et puis, quand à nouveau tout va bien, on reprivatise et puis on se partage les bénéfices. C'est pas si simple que ça, Christelle Peson.
Alors écoutez, c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que...
Ça y ressemble quand même.
Ça y ressemble quand même. Vous avez raison de souligner que le nerf de la guerre dans les secteurs très capitalistiques comme celui de l'eau, hein, puisque il faut bien comprendre que le choix du réseau est le choix d'une industrie extrêmement gourmande dans l'investissement. Mais ces investissements ne sont pas linéaires, ça veut dire qu'on les fait... On les fait une fois et puis on les reproduit 50 ans plus tard. Et donc tous les 50 ans, en gros, se pose la question de comment va-t-on financer ces investissements. Et selon, je veux dire, l'idéologie du moment, on opte pour des formes d'organisation qui permettent que ces investissements soient réalisés de manière compatible avec l'idéologie du moment. Donc effectivement, en Angleterre, et encore une fois, en Angleterre et au Pays de Galles, puisque en Écosse, le modèle est différent, une fois ces entités régionales constituées, en 1994, elles ont été privatisées. Mais elles ont été privatisées à des sociétés qui n'ont pas repris à leur compte les dettes de ces sociétés. Ce qui fait qu'effectivement, pendant 20 ans, ces entreprises ont gagné de l'argent parce qu'elles n'avaient pas ces investissements à rembourser. Et puis, récemment, les investissements sont revenus.
Bon, Christelle Peson, malheureusement, c'est la ligne se détériore grandement. Ça devient de plus en plus compliqué de vous entendre. On va à nouveau essayer d'améliorer les choses, mais je suis obligé de reprendre la balle et de la rendre à Bernard Baraquet, qui va poursuivre. Oui. Bernard Baraquet.
Mais oui, elle a raison. Moi, je rappelle quand même une chose. Quand il y a eu la privatisation, Madame Thatcher a donné aux entreprises privées, aux 10 entreprises privées qui ont été créées, une dot verte de je sais plus combien de milliards de livres. Ce qui représentait à peu près 30 ans de subventions, telles qu'on en donne encore un peu en France ou en Allemagne, aux services d'eau locaux. Donc, quand les Anglais nous disent « Ah oui, ça va marcher, c'est super », bah quand même, on peut se poser la question, hein, on l'avait critiqué. Il y a une autre solution, et il y a au moins deux autres solutions. Il faut parler de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, avec son histoire de gestion extrêmement locale de l'eau, vous savez, les Allemands, la citoyenneté allemande, elle est locale avant d'être nationale. Et pour les Allemands du début du XXe siècle, la municipalité qu'ils élisaient apparaissait souvent comme le premier rempart démocratique par rapport à l'arbitraire de l'État prussien. Faut le dire, hein. Et du coup, eux, ils ont fait énormément d'efforts sur une qualité de services publics locaux avec des fonctionnaires locaux absolument impeccables, pas de corruption. Et pratiquement, il n'y a jamais eu de privatisation.
Mais très grande fragmentation.
Parce que non, il y a eu quand même une concentration dans les années 70-80 du XXe siècle.
Hein. D'accord.
Il y a eu une belle concentration. Les syndicats intercommunaux existent en Allemagne, etc. Mais ce qui est important, c'est que surtout les Allemands ont créé ce qu'on appelle les Stadtwerke, c'est-à-dire qu'ils ont réuni l'électricité, le gaz, l'eau et parfois les réseaux de chaleur urbaine, etc. dans une seule entreprise municipale, ce qui fait que les problèmes de besoins en capitaux que mentionnait à juste titre Christelle ont été résolus différemment de ce qu'ils ont pu être résolus en France ou en Angleterre. Le dernier modèle qui me paraît alors là vraiment étonnant pour nous Français, c'est le modèle des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous avez plus que 10 entreprises qui distribuent l'eau potable, pour un pays de 16 millions d'habitants, c'est quand même bien, bien concentré, dont une qui fait la moitié du pays d'ailleurs, 10 entreprises privées qui appartiennent toutes aux collectivités locales, un peu comme en Allemagne. Mais elles ne sont pas fusionnées avec de l'électricité ou quoi que ce soit. Par contre, l'assainissement, les réseaux d'égouts sont dans les mains des 400 communes, au nom de ce qu'elles doivent coopérer avec l'urbanisme. Et le traitement des eaux usées est confié, alors là, un truc qui existe depuis toujours aux Pays-Bas, les fameuses wateringues qui protègent les villes et les campagnes contre la mer, contre les inondations. Donc, dont la moitié de l'activité financière, c'est le drainage et les inondations, et l'autre moitié, c'est le traitement des eaux usées. Donc, vous avez trois modèles aux Pays-Bas, la gestion commerciale de l'eau, la gestion en régie de l'assainissement, et qui est payée dans les impôts locaux, et la gestion en bien commun de l'épuration des eaux usées avec la protection contre les inondations.
On était avec vous Bernard Baraquet, vous Christelle Peson, dans cette série consacrée aux nouvelles batailles de l'eau. Et on va prendre la direction de l'Irlande en 2014, alors que les contribuables irlandais subissent déjà de nombreuses Mesure d'austérité, suite à la crise de 2008, le gouvernement d'Endakeni annonce son ambition d'imposer une facturation sur l'eau courante, alors que ça fait des décennies que les Irlandais ne payent pas directement l'eau qu'ils consomment. S'ensuit alors d'importantes mobilisations dans plusieurs villes du pays. On en parle tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avons besoin d'une Irlande radicalement différente. Nous devons en finir avec les inégalités qui sont tellement fortes ici et qui se sont intensifiées depuis 5-6 ans. La facturation de l'eau est un autre aspect de cela, de ces inégalités entre les gens en Irlande. Un petit groupe de personnes devient de plus en plus riche. Il faut que ça s'arrête. On a besoin que les gens continuent à construire, qu'ils deviennent plus forts, qu'ils participent à des actions comme celle-ci, et que tous ensemble, nous obligions le pays entier à être plus égalitaire. C'est ça que l'on doit faire. Ça dit tout de l'état de frustration des gens, et ça dépasse la facturation de l'eau. Mais c'est à travers cette facturation que s'expriment la frustration, la colère et le désespoir. C'est ce que sont venus montrer tous ces gens présents aujourd'hui. Ils ne veulent plus de l'austérité, peu importe la forme avec laquelle on l'impose.
John Bissett, activiste irlandais qui manifestait en octobre 2014 contre la fin annoncée de la gratuité de l'accès à l'eau. Bonjour Alexandra Slaby.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Caen, spécialiste de la civilisation irlandaise. Ces manifestations de 2014 qui avaient été vraiment extrêmement importantes dans tout le pays, avec des dizaines de milliers de personnes qui descendaient dans la rue régulièrement pour s'opposer à cette ambition du gouvernement. Pour comprendre cette colère, il faut aussi peut-être rappeler un tout petit peu le contexte. On est après la crise de 2008, on a demandé énormément d'efforts aux Irlandais. Et sans faire de vilain jeu de mots, c'est un peu cette affaire, la water charge, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai cédé à cette tentation de ce jeu de mots très tentant.
Vous n'êtes pas la seule.
oui, alors, le problème, c'est que la participation à l'entretien des infrastructures en eau s'est retrouvée, entre guillemets, noyée, pour filer la métaphore, avec l'effort du contribuable pour renflouer les banques, renflouer le système financier. Mmh. Et donc, des considérations environnementales qui étaient réelles se sont retrouvées politisées de cette manière. Mmh. Et c'est devenu un impôt très symbolique, et c'est devenu le symbole du ras-le-bol de la politique d'austérité, qui a été perçue comme excessivement sévère par les contribuables irlandais.
Mmh. Et puis pour rajouter au symbole, Alexandra Slaby, il faut peut-être dire aussi que c'est aussi une réforme qui avait été demandée par la Troïka à l'époque, hein, l'Union européenne, le FMI, la Banque centrale. C'est elle qui voulait un certain nombre de réformes en échange du plan de sauvetage financier.
Exactement, c'était en 2010, et en 2010, le plan de sauvetage financier est demandé, dans le même paragraphe d'ailleurs que l'augmentation des frais de scolarité des étudiants, demandait l'instauration d'une taxe sur l'eau. Mmh. Et alors il faut savoir que c'était une mesure nouvelle. Les Irlandais s'étaient habitués depuis plusieurs décennies à ne plus payer l'eau, et c'est tombé au mauvais moment, alors que justement il y avait une autre problématique qui était là, présente depuis 2000, depuis la directive cadre européenne sur la qualité de l'eau, et qui demandait justement que des anomalies criantes soient corrigées.
C'est tellement tombé au mauvais moment, Alexandra Slaby, qu'il a fallu revenir en arrière. En 2017, on a fini par abandonner ce projet de taxe.
Oui. Alors, ça a été il y a eu beaucoup d'hésitations, et ça a été très chaotique, cette gestion à plusieurs niveaux. Le gouvernement qui était responsable de la mise en place du sauvetage financier, qui était donc à majorité Fianna Fáil, était à l'origine de cette création de Irish Water, le nouveau prestataire qui a été mis en place en 2013. Et face à l'ampleur des manifestations, la vice-premier ministre a quand même été séquestrée dans sa voiture pendant 3 heures par des manifestants. C'était très violent. Le Sinn Féin s'en est mêlé. les quelques personnes qui ont été placées en détention provisoire ont menacé d'entamer une grève de la faim. Jerry Adams a dit que ça pouvait être comparé aux marches pour les droits civiques de 1968-69 en Irlande du Nord. Ça a vraiment été très loin. Et donc le Fianna Fáil a fait un petit peu machine arrière. Il y avait une campagne électorale en plus en 2016. Et puis le Fianna Fáil, il est très ennuyé.
Qui est de centre droit, juste pour positionner les choses. Centre droit.
C'est ça. Alors, le Fianna Fáil porte une grande responsabilité dans toute cette affaire parce que c'était un ancêtre Fianna Fáil, Charles Horry, qui, en 1977, avait mis fin à la taxe sur l'eau. Elle avait été restaurée brièvement en 85 et de nouveau en 97, sous le Fianna Fáil de nouveau, il a été décidé d'exempter la population de cette taxe. Et là, le Fianna Fáil, pour redresser l'économie, avait consenti à créer cette entreprise. Alors j'ai écouté tous les différents modèles là tout à l'heure. Je ne sais pas trop comment qualifier le modèle irlandais à la lumière de tout ça, mais
justement c'est la question que j'allais vous poser, Alexandra Slaby, c'est comment on classe le modèle irlandais, parce que j'ai compris qu'il y avait eu en 2013 la création de cette agence nationale, donc la Irish Water. On imagine que dans un contexte où les gens ne veulent pas payer l'euro, on a évidemment un modèle qui est totalement public. En réalité, les choses sont plus compliquées. Il y a du privé aussi.
C'est ça. Irish Water est une entreprise qui a été créée par l'État, on peut dire, en 2013, et dont l'État est l'actionnaire majoritaire. Irish Water rassemble des ingénieurs qui font des études et des rapports sur l'état des canalisations et qui fait des recommandations. Et là, plus récemment, en 2016, il a été décidé que Irish Water rendrait un rapport, se réunirait et ferait des recommandations pour la suite. Et ce rapport, donc sorti en 2017, a conclu qu'il fallait facturer différemment de ce qui a été tenté puis abandonné et a repoussé le début de la facturation à 2022. Donc on est c'est encore la situation actuelle. En fait, c'est que le contribuable particulier ne paye toujours pas l'eau, seul paye l'eau les entreprises dans le cadre des impôts locaux.
On ne paye pas l'eau à condition d'être raisonnable, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, on se met à payer. Dans cette agence nationale, en l'occurrence, en tout cas dans ce système de distribution des eaux, on trouve aussi des acteurs privés, notamment ceux qui sont chargés d'installer les compteurs. C'est une société qui appartient, je crois toujours aujourd'hui, à une des plus grosses fortunes du pays qui s'appelle Dennis O'Brien, qui d'ailleurs n'a pas vraiment l'air d'être dans le cœur des Irlandais, en tout cas de ceux qui sont descendus dans la rue. Et ça participe évidemment de tout cela. Alexandra Slaby, la question de purement politique, des conséquences politiques de cette affaire-là, est-ce qu'il y en a eu, justement ?
Ça a mobilisé beaucoup de mouvements anticapitalistes au tournant de 2014, 2015, 2016, campagne électorale de 2016. Le Sinn Féin a remporté un nombre de sièges historiques. Le Sinn Féin, à cette occasion-là, a affirmé une position plutôt de gauche, plutôt anticapitaliste, mettant derrière lui son association hypothétique avec l'IRA. Et donc, ça a été le début d'une reconfiguration du paysage politique irlandais en, d'une part, Fine Gael, Fianna Fáil, coalition qu'on voit actuellement, avec, d'une part, et face à tout un mouvement de partis plus ou moins de gauche.
Oui, parce que c'est toujours un peu compliqué, le paysage politique, enfin, compliqué de notre point de vue, effectivement, parce que, par exemple, le Sinn Féin, c'est un parti national, mais relativement social, effectivement, donc c'est parfois difficile de le classer. Peut-être une réaction avec Bernard Barraquet ici sur ce cas irlandais.
Oui, tout à fait. C'est important de rappeler l'histoire. Parce que les Irlandais, à l'époque où les services d'eau sont apparus, Bah, ils étaient des Anglais. Ils n'avaient pas encore obtenu leur indépendance. Or, quand les Anglais ont développé les services d'eau, c'était avant l'invention des compteurs. Donc, les Anglais ont développé des services d'eau, d'ailleurs en confiant de plus en plus la responsabilité directe aux collectivités locales, mais à ce moment-là, on payait l'eau en fonction de sa fortune apparente, c'est-à-dire dans des taxes locales qui étaient liées à la valeur locative de leur logement, ce qu'on appelait les rates. Et c'est resté comme ça. Et aujourd'hui encore, vous ne me croirez peut-être pas, mais il y a encore 45% des Anglais qui continuent à couvrir leurs charges d'eau comme ça. C'est-à-dire que dans cette culture de l'eau, qui est une culture du 19e, l'eau reste quand même largement ce qu'on appelle un bien commun. En anglais, commonwealth. Comprenez ? L'origine du mot commonwealth, c'est exactement ça. C'est sous Cromwell, mais c'est il y a longtemps. C'est des gens différents qui vont essayer de faire des trucs ensemble. Les Irlandais sont restés là-dessus. Les Anglais ont introduit des compteurs. Maintenant, les Irlandais veulent introduire des compteurs et on peut le comprendre. Hein, mais il faut comprendre qu'aussi qu'en Irlande, encore aujourd'hui, vous avez 20% des Irlandais qui ne sont pas raccordés à un service municipal d'eau. La moitié sont sur des puits privés et l'autre moitié sont sur ce qu'on appelle des group water schemes, qui sont des communautés locales de distribution d'eau ou d'autodistribution d'eau, qui sont très variées et les gens ont confiance dans ça. Donc on peut comprendre que dans cette situation, ben les Irlandais, ils sont résistants à un modèle à l'occidental tel qu'on l'a en France, hein, je veux dire, ou en Allemagne ou aux Pays-Bas, où on paye l'eau dans des factures.
Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra Slaby. Et je rappelle que vous êtes auteur notamment de cet ouvrage « Histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours » qui était paru chez Talendier. Un grand merci à vous.
I covered the waterfront. I'm watching to see, will the one I love soon come back to me, to me. I covered the waterfront in search of my love, and I'm guided by the starlit sky above. Oh, here am I, patiently waiting, hoping and longing, oh, how I yearn. Where are you forgetting, do you remember, will you return? I covered the waterfront, I'm watching to see, will the one I love soon come back to me? Whoa, I covered the waterfront, I'm watching to see, will the one I love soon come back to me, to me, to me, to me.
Et un grand merci à nos deux invités, Christelle Peson qui est avec nous depuis Turin, malgré la ligne pas toujours évidente, mais en tout cas un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Baraquet, merci également d'avoir été avec nous. Je renvoie vers la revue Flux, on mettra le lien sur la page de Culture Monde, on trouve plein de choses extrêmement intéressantes sur notre sujet du jour.
Sur la genèse et le développement des services d'eau en Europe et en Amérique du Nord.
En référence sur la page de Culture Monde. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table, mais d'abord c'est Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Que reste-t-il du mythe selon lequel Français et Allemands seraient des ennemis héréditaires, Brice ?
Eh oui, cela peut paraître risible et anachronique aujourd'hui, alors que nous nous gaussons d'exercer avec l'Allemagne un directoire commun sur l'Europe des 27. Remarquez, parmi les 25 autres, beaucoup s'en accommodent. Si la France et l'Allemagne sont parvenus à surmonter leurs divergences, raisonne-t-il, c'est le signe que nous-mêmes y trouverons notre compte. Les deux pays ont des intérêts et des conceptions si différents en tout. Mais les relations entre nos deux pays ont-elles jamais vraiment cessé d'être empreintes de défiance, voire d'inimitié ? Au niveau des conversations du café du commerce, les préjugés ont la vie dure. Les Allemands nous jugent prodigues et inconséquents, dépourvus des moyens de nos vastes ambitions. Nous les tenons, nous, pour égoïstes et radins, inutilement précautionneux, lent à la détente. Dans l'Union européenne, nos deux traditions s'équilibrent. Car, comme l'a montré Luc van Middelaar, les Allemands conçoivent prioritairement la politique sous l'angle de la régularité par le respect des normes. Cette politique de la règle exige le compromis et elle s'exerce sous supervision judiciaire. Les Français, eux, sont habitués par leur histoire à une politique de l'événement, qui réclame l'incarnation et favorise un pouvoir décisionnaire, exactement ce dont les Allemands ont appris à se méfier. Là où le président de la République peut décider souverainement et sur l'heure, la chancelière doit obtenir l'accord de ses partenaires de coalition, du Bundestag, des Länder et de la cour de Karlsruhe. Nos gouvernants ne vivent pas dans le même espace-temps. C'est l'une des causes, avec l'histoire, de la grande divergence franco-allemande à propos de la monnaie. Les Français considéraient par tradition qu'il appartient au pouvoir politique de manipuler à sa guise la valeur du franc pour compenser nos pertes régulières de compétitivité. Nos rois, déjà, dévaluaient régulièrement la monnaie pour se débarrasser des dettes de leur État dilapidateur. À l'opposé, les Allemands sont tétanisés par l'expérience de l'hyperinflation de 1922-23 qui a ruiné leur classe moyenne et surtout par celle des années 30 qui a beaucoup fait pour propulser Hitler à la chancellerie. C'est pourquoi ils ont exigé que l'euro soit déconnecté du pouvoir politique, que sa gestion dépende d'une banque centrale indépendante et pour plus de sûreté, et ils l'ont fait installer à Francfort.
Mais Brice, les guerres d'autrefois ont bien laissé dans les esprits des empreintes. Comment les caractériser ?
Ce sont des questions pour historiens. Et justement, vient de paraître un livre signé par deux professeurs d'histoire, Hélène Miard de la Croix, qui est professeure à la Sorbonne Université, et Andreas Wirsching, qui dirige l'Institut für Zeitgeschichte, l'Institut pour l'histoire contemporaine de l'Université de Munich. Ennemis héréditaires, c'est le titre de ce livre, tous deux sont des spécialistes de l'histoire des relations franco-allemandes. Et plutôt que de soumettre leurs lecteurs à l'exercice rébarbatif des contributions successives, ils ont eu l'idée de donner à leur livre la forme d'un entretien à bâton rompu, et c'est assez réussi. Voilà, nous autres Français, nous avons complètement oublié les dévastations commises par les troupes de Louis XIV lors du sac du Palatinat en 1688-89. Les villes de Heidelberg, Mannheim, Worms, Oppenheim, Bingen ont été incendiées par nos très valeureux soldats et les ruines du splendide château de Heidelberg, détruit par les Français, ont été instrumentalisées par tous les gouvernements nationalistes allemands pour alimenter les passions anti-françaises. Il est paradoxal en effet de constater que l'image que nous nous sommes longtemps fait d'une Allemagne belliqueuse a son exact équivalent de l'autre côté du Rhin. Avant 1870, pour les Allemands, ce sont les Français qui passaient pour des occupants dévastateurs. Mais bien sûr, la première et la grande différence entre nos deux pays, la plus fondamentale, elle tient à l'ancienneté. Car si la France a célébré son unité nationale le 14 juillet 1790, eh bien celle-ci existait déjà en tant que nation depuis bien des siècles par le patient ouvrage de nos rois. Par contre, il y avait des Allemagnes, mais pas d'Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique comptait plus de 300 principautés, grands-duchés d'opérettes, villes libres et autres micro-états indépendants lorsque Napoléon Ier l'a dissous en 1803, laissant d'ailleurs à Talleyrand le soin de redessiner la carte politique des Allemagnes à l'avantage de la France. L'Allemagne, en tant que sujet politique, est née sur le tard, le 18 janvier 1871, lorsque les princes allemands et le commandement militaire vainqueur de la France de Napoléon III, proclamèrent Guillaume Ier, roi de Prusse, empereur d'Allemagne. Ils avaient choisi pour cette cérémonie un lieu archi-symbolique, la galerie des glaces du château de Versailles, une manière délibérée de profaner la mémoire du roi Soleil, son ancien propriétaire, le fameux saccageur du Palatinat. Formidable lieu de mémoire, vous me direz, des querelles franco-françaises, cette galerie des glaces, puisqu'elle a accueilli en 1919 la conférence de paix organisée entre eux par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et savez-vous quelle date avait choisi Clémenceau pour son inauguration ? Eh bien, le 18 janvier, justement.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Ennemi héréditaire. Point d'interrogation, hein. Il y a un point d'interrogation, oui. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Le dialogue franco-allemand, c'est paru chez Fayard ?
C'est paru chez Fayard et les auteurs sont donc Hélène Miard de la Croix et Andreas Wirsching.
Hélène Miard de la Croix qu'on a l'habitude d'entendre ici à ce même micro. Merci beaucoup, Brice Couturier.